Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
Je ne vais pas commencer à baisser mon prix si je ne suis pas sûre que c'est le dernier levier que tu veux activer.
Je travaille depuis 25 ans, je n'ai jamais eu autant de refus. Donc il faut se préparer à avoir beaucoup de non et de silence.
On ne négocie pas sa valeur, on négocie un service, un besoin, une prestation, mais pas sa valeur personnelle.
La solution, elle n'est pas dans votre tête. Si vous cherchez comment est-ce que vous allez closer ce deal depuis votre référentiel à vous, vous n'êtes pas au bon endroit.
Le podcast des indépendants sur BFM Business, présenté par Ludovic Badeau.
Très heureux de vous retrouver sur BFM Business dans un nouvel épisode du podcast des indépendants. Mieux négocier pour vendre plus. Parce qu'on peut avoir le meilleur produit, le meilleur service, la meilleure expertise et ne rien vendre ou pire, vendre en perdant de l'argent. La négociation ne s'improvise pas. Préparation, posture, rapport à soi, rapport à l'autre ou encore stratégie bien rodée, on va tout aborder dans ce nouvel épisode avec un objectif, sortir gagnant financièrement et humainement. Et pour en parler, comme à chaque fois, quatre invités que je laisse Ombline vous présenter.
Première invitée, Anne-Gervaise Vendange, profileuse et experte des dynamiques humaines complexes. Anne est connue pour son approche stratégique de la relation humaine. En 2020, elle cofonde Iconito pour transposer cette expertise au monde de l'entreprise en aidant les organisations à décrypter les jeux relationnels, à sécuriser les prises de décision et à traverser les crises en s'appuyant sur un levier central, la compréhension fine du fonctionnement humain. Deuxième invitée, Shannon Louise Boutaleb, fondatrice de la S4Sales Academy, coach et formatrice en vente. Shannon part d'un principe simple, la vente est une compétence obligatoire pour entreprendre. Son parcours commence à 14 ans sur les marchés de Rungis où elle apprend la négociation en conditions réelles. Depuis, elle a intégré des environnements B2B très compétitifs comme Scaleo et HubSpot où elle devient top sales avec jusqu'à 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, elle accompagne les commerciaux et les entrepreneurs pour vendre plus et mieux en 90 jours. Troisième invitée, Sandrine Glaise-Ricci, conférencière et autrice. Sandrine se passionne pour la relation à l'argent avec la méthode Money Profil qu'elle a développée pour comprendre la manière dont chacun perçoit l'argent à travers son histoire et ses croyances. Pour Sandrine, le rapport à l'argent impacte directement sa capacité à négocier et à développer son activité. Elle a récemment publié Parlons Cash aux éditions Weber. Quatrième et dernière invitée, Catherine Barba. Catherine est entrepreneure, investisseuse et experte du e-commerce et de la croissance digitale. Pionnière du commerce en ligne en France, elle a fondé et revendu plusieurs entreprises avant d'accompagner startups et grands groupes dans leur stratégie d'innovation et de transformation. Elle est également la fondatrice d'Envie, une école de vente dédiée aux indépendants qui veulent professionnaliser leur approche de la vente. Son fil conducteur, une vision ne vaut rien sans capacité à vendre.
Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast des indépendants et j'aimerais commencer cet épisode sur la négociation par une question très simple. Est-ce qu'au fond, quand on est entrepreneur, c'est pas un point qu'on met un peu de côté? C'est-à-dire qu'on se concentre sur ce qu'on propose, comment est-ce qu'on en fait le marketing avec les supports, avec la communication? Et quand vient l'étape de négociation, bah on se retrouve des fois un peu désarmé, Shannon.
Si, totalement. Je pense qu'on ne prépare pas la négociation, tout simplement parce que, de base, quand on est entrepreneur et qu'on a ses premiers clients, on est déjà tellement content d'être arrivé à ce stade-là, d'avoir quelqu'un qui nous a dit « ce que tu fais, ça m'intéresse, je suis prêt à aller plus loin », qu'en fait, on en oublie qu'il y a quand même un échange dans lequel il faut être gagnant. On apporte de la valeur, mais derrière, il faut gagner de l'argent. Et c'est souvent à ce moment-là où le client ressent, en fait, qu'on est content de l'avoir, qu'on oublie de se préparer à la négociation, qu'on oublie de négocier.
C'est super intéressant parce que c'est, en tant qu'entrepreneur, c'est un phénomène que j'ai déjà vu chez moi. T'es tellement content. Il y a des leads rentrants, il y a des demandes, il y a un besoin. Et tu dis, ça va le faire. Et en fait, tu te rends compte avec le recul que tu as planté quand même un certain nombre de négociations parce que tu n'étais pas préparé, Anne.
Ouais, absolument. Oui, absolument. Mais c'est vrai qu'en plus, quand on lance sa boîte, ce n'est pas du tout la priorité. On commence par se dire, qu'est-ce que je vends? Comment je le vends? C'est quoi l'image avec laquelle je le vends? Et en fait, on passe complètement à côté, notamment d'une partie assez précise de la négociation qui est mon positionnement dans la négociation. Parce qu'en réalité, de mon produit et de qui je suis, va découler aussi ce positionnement dans la négociation. C'est pas du tout pareil, par exemple, si j'ai un positionnement d'autorité pour aller négocier ou si je suis de la commodité pour mon client.
Et ça se prépare et ça commence par se préparer vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire être aussi sûr de son produit, sûr de sa cible et en fait être dans les bonnes conditions pour négocier finalement. Et tu me disais en préparant cette émission, Catherine, que c'était quand même l'une des clés, c'était de revenir des fois aux fondamentaux en disant, est-ce que mon produit est adapté? Est-ce que ma cible est la bonne?
On n'a aucune chance
d'arriver à l'étape de la négo si on n'a pas la bonne cible dont on connaît super bien les besoins et pour laquelle on a une offre qui répond adéquatement, de façon unique, utile. Enfin, il y a tout un tas d'éléments à valider avant. Mais ça, c'est ça ton socle. Dans notre école de vente, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont... C'est un peu tiède ce qu'ils vendent. Tout le monde pourrait le vendre. Donc, on travaille énormément. C'est quoi ton besoin? Et qu'est-ce que tu as d'unique dans ce que tu proposes?
Et quand c'est tiède, du coup, c'est en phase de négociation, c'est tout de suite, évidemment, plus compliqué.
Je ne sais pas si tu y arrives, d'ailleurs, si c'est tiède, en général. Hein. Peut-être que c'est... Mais une fois que tu as bien travaillé l'amont et le socle, c'est là qu'il faut t'entraîner. Il faut t'entraîner à la vente. En fait, on fait bien ce qu'on fait souvent. Donc, je pense qu'il faut... C'est ce qu'on fait, nous, on les entraîne.
Il faut pratiquer. Oui. Et on voit que la négociation, c'est un sujet à 360 degrés. Il y a aussi cette question du rapport à l'argent, Sandrine. C'est pour ça que tu es là aussi, puisque tu viens de sortir un livre Parlons Cash, parce que tu es la créatrice de Monnaie Profil. Quand on a préparé l'émission, tu m'as dit, si on n'a pas... finalement, un rapport à l'argent qui est assez clair, on se plombe automatiquement en négociation.
Ouais. C'est toujours une bonne nouvelle quand on est à la phase de négo. Bravo. On est au bon endroit, on a son offre. Après, c'est dans mon rapport à l'argent, c'est-à-dire l'ensemble des projections que je vais faire sur « Ah, je vais faire du chiffre d'affaires, hein, je suis toute excitée. » Qu'est-ce qui va se jouer derrière ça? Et très souvent, on arrive à « Ah, est-ce que je l'ai mérité ?» Finalement, est-ce que l'enjeu de la négociation ne va pas jouer sur mon rapport à moi-même, sur est-ce que là je suis à la hauteur pour mériter ça? Et dans ce cadre-là, ce qui se passe très souvent, on aurait tendance à se positionner en position basse, c'est-à-dire d'arriver en je suis tout petit moi face à ces grands-là qui sont susceptibles d'acheter mon produit et éventuellement ma valeur. Par rapport à ça, effectivement, arriver en position basse, je t'en avais parlé, j'ai l'exemple d'un client, je lui avais proposé de dessiner comment il se présentait lorsqu'il était en négo. Et je vous donne dans le mille, il était sur un ring, il avait des gants de boxe. Et il était comme ça, je dis vas-y, mets-toi en gants de boxe là, vas-y. Et puis il me dit oui, en fait, je dois me défendre, tu comprends? Et là, je dis bah défendre de quoi? Et en fait, cette posture qui passe par la communication non verbale, qui est vraiment là, soit comment je me positionne, ben, il se présentait face à son client, tout petit avec des gants de boxe. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah effectivement, il passe sa vie à se battre et on n'est pas dans une relation. Moi, je dis toujours, la négo, c'est une relation d'humain à humain. On n'est pas dans une relation de prédation, mais de relation.
Et on verra que le prix, ce n'est pas finalement le cœur du sujet, parce que très souvent, on s'arrête sur la question du prix et on verra que ce n'est pas le cas. Est-ce que toi, Catherine, dans ton école de vente, ce qu'on est en train de dire là, la question de la posture, de comment on se perçoit, de comment on se positionne, c'est décisif, c'est une vraie réflexion qu'il faut apporter aux élèves?
Nous, on fait tous les lundis matin, on fait un truc qui s'appelle le Barba Boost. Je vais vous inviter d'ailleurs, c'est 15 minutes, 9h, 9h15 en ligne. Et on prend un sujet, voir grand, inspirer confiance, se relever après un échec. Et moi, je partage des choses, ça fait 25 ans que je suis entrepreneur, donc tu vois, des choses que j'ai vécues, très concrètes. Et mon associée Charlotte l'illustre avec une œuvre d'art, parce qu'elle est aussi conférencière en histoire de l'art. Et tous les lundis matins, on dit, on est une centaine, et je leur répète, vous êtes des merveilles, vous avez une immense valeur. Tu sais, ça fait un peu secte, mais la vérité, c'est qu'il y a c'est un peu performatif, tu deviens ce qu'on te dit. Et à force de te répéter, comme tu le dis, j'ai une immense valeur. Et moi, je me le fais d'ailleurs avant d'aller négocier. Tu vois, quand j'ai une grosse négo à faire, avant une visio ou une réunion, je m'enferme et je suis toute seule avec moi dans les toilettes et je me dis, c'est fou, ça fait longtemps que tu travailles, t'as accompli plein de choses, t'as beaucoup bossé. Enfin, je me le répète, en fait, j'ai besoin, je ne sais pas comment vous faites, vous, mais de me redire ma valeur et quand j'en suis convaincue, alors je vais sereinement affronter la négo.
Ouais, c'est pour être solide aussi dans la négociation, sans parler non plus de surestimer non plus sa valeur, parce qu'on le verra après dans la négociation. Il faut savoir aussi à des moments lâcher du lest. Et d'ailleurs, Shannon, en préparant cet épisode, tu m'as dit, il y a une idée que j'ai beaucoup aimée, c'est les trois niveaux de rupture, parce que j'aimerais qu'on rentre dans des conseils très concrets. Comment est-ce qu'on fait pour justement travailler sa posture? Tu viens de donner un conseil, Catherine. Comment est-ce qu'on fait pour bien négocier et pour se préparer? Parce qu'une négociation, c'est pas au doigt mouillé, Shannon.
Non, bien sûr. En fait, je pense qu'il y a un point qui est ultra intéressant. Moi, comme j'ai commencé à vendre dans des organisations très complexes avec des décideurs très jeunes, il y a un vrai sujet de posture. C'est-à-dire que quand on est très jeune, moi je suis arrivée, j'avais 23 ans, sur truc avec des mecs qui avaient 35, 45 5 ans. Et la petite, elle est vachement pas très bien vue. Donc il y a un vrai sujet d'estime, de comment est-ce que tu te positionnes. Et moi, la chose qui m'a le plus aidée, et ce que j'apprends beaucoup à mes élèves aussi dans mon académie, c'est que je leur dis en fait, l'action précède la confiance. Donc le sujet, c'est quelles actions est-ce que tu vas mettre en place qui vont confirmer ce que tu dis à ton cerveau. Donc c'est-à-dire qu'au-delà de te dire, je suis quelqu'un de génial, j'ai un super produit, ce que je vends, c'est top, ce qui est très bien. Le problème, c'est que dans une situation de panique où ton cerveau est en train de fuir l'inconfort parce que tu as du stress, si tu n'as rien sur lequel te relayer ou t'appuyer, tu vas paniquer et ça va pas marcher. Comment est-ce que tu le fais? Et moi, je parle des 3 points de rupture et c'est ce que je préparais dans toutes les négos très complexes. Les 3 points de rupture, c'est quoi que tu souhaites réellement? Et c'est quelque chose que tu peux même utiliser dans ta vie de tous les jours, hein, avec des amis, dans une situation, même dans un couple. C'est qu'est-ce que je tolère? Qu'est-ce que je souhaite? C'est quoi ma situation idéale? Ok, ça, c'est ton premier point. C'est ta zone souhaitée. C'est ce que tu veux. Okay. C'est ton idéal. C'est ma première zone, c'est en gros, je veux ça. Donc, si tu prends par exemple une négociation, c'est moi, j'aimerais bien que le client achète au prix. J'ai pas envie de négocier en fait. Ma zone souhaitée, c'est le prix. Ensuite, il y a qu'est-ce que je suis capable de tolérer? D'accord? Qu'est-ce que je suis capable de tolérer? Ça va être 10%. Moi, je suis OK avec 10%. Et ensuite, on va réfléchir à OK, quelle contrepartie je vais demander pour obtenir ces 10%. Donc, c'est-à-dire que j'ai des leviers où je suis pas en train de négocier avec moi-même. Je suis en train de négocier avec mes leviers. Et donc, du coup, psychologiquement, je me détache de la négo puisqu'il parle pas à moi, il parle à mes leviers, en fait, ceux que j'ai déjà préparés. Donc, je me back up. Et ensuite, le dernier, c'est le point de rupture. À partir de quel moment je sors de la négociation? C'est-à-dire que je me lève et je pars et je dis désolé, mais si on discute à partir de ce moment-là, ça ne me va pas. Je m'en vais. Il y a une notion de strat et il y a une notion de préparation. Je suis assez d'accord avec toi, Ludo, parce que c'est vraiment ça qui va te permettre de changer l'aspect posture. Mais je trouve que ce qu'ont dit Anne et Catherine vis-à-vis de la posture était quand même très vrai. C'est juste qu'elle est conditionnée par la stratégie en amont.
Oui, c'est un tout, Anne.
Oui, bien sûr. Évidemment, en fonction de la stratégie que tu as adoptée, de ton produit et de ton positionnement, la stratégie va changer. Si on vous dit, on vous fait des plats tout préparés et c'est comme ça qu'il faut négocier, surtout fuyez. L'idée, c'est que vous deveniez un grand chef. Chez Incognita, on essaie de les outiller pour qu'ils deviennent des grands chefs. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est hyper important peut-être encore à ajouter à ce que disait Shannon, c'est l'idée de quel est mon propre risque dans cette situation. Au-delà de, oui, bien sûr, évidemment, ces 3 points, et j'en mettrais même un quatrième qui est quel est mon vrai risque intime dans cette situation. Et se mettre devant soi son risque intime, c'est hyper important. Et évidemment, on va avoir au premier niveau, nous, on bosse dans des boîtes, ou je sais pas, moi j'ai des acheteurs qui me disent bah, mon risque, c'est de pas avoir le bon prix, mon risque, c'est... D'accord, mais au-delà de ça, si je tire ce fil, en vrai, si tu ne vends pas au bon prix, eh bien peut-être que, je sais pas, moi, ton manager va se dire que t'es naze. Et s'il se dit que t'es naze, peut-être t'es en train de... Et en fait, t'es en train de tirer le fil vers un risque qui est un risque qui t'appartient à toi en vrai, en fait. Un risque intime, un risque de sécurité, un risque de reconnaissance, un risque... Et ce risque-là, c'est celui qui t'agite et qui va te faire prendre de mauvaises décisions. Mmh. Et en réalité, celui qui gagne une négociation, c'est celui qui est le plus prêt à prendre son risque dans cette négociation. On n'a pas le même, mais on en a chacun un qui est en train de nous piloter. Et l'avoir reconnu ce risque et décidé de l'affronter, de prendre le risque qu'il arrive justement, plutôt que d'essayer de l'éviter à tout prix, c'est ça aussi qui va me rendre libre dans cette négociation et qui va me permettre de faire les bons choix stratégiques.
Ça m'a beaucoup étonné, Shannon, ce que tu m'as dit quand on a préparé une méthode que Shannon a, qui est quand même assez extraordinaire. Je te laisse nous expliquer, Shannon.
En fait, ça, c'est quelque chose que j'avais développé dans les négociations complexes avec du multi-décideur. Moi, je suis OK que tu benchmarks d'autres solutions. Je suis OK qu'on discute
que
du prix.
Que tu benchmarks.
Que tu compares, que tu regardes d'autres solutions, que t'envisages en tout cas différentes options. Je suis pas du tout fermée à ça, au contraire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, je vais pas commencer à baisser mon prix si je suis pas sûre que c'est le dernier levier que tu veux activer. Et donc pour ça, ce que je vais te demander par écrit, c'est qu'est-ce qui justifierait que je te donne une remise à toi et pas au client précédent? Ça, c'est la première question. Faites pourquoi? Qu'est-ce que tu m'apportes de plus que le client précédent ne m'a potentiellement pas apporté? Moi, ce que j'essaye d'inculquer à mes élèves dans mon académie, c'est que dans une négociation, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est souvent le client qui la demande, c'est pas toi qui la propose. Je suis OK, tu viens me demander quelque chose, donc quelles sont les solutions que tu as à apporter pour ça? Et donc, dans ce cas-là, je le remets dans une position de très bien, mais qu'est-ce qui justifierait toi et pas mon client précédent? Une fois qu'il m'a donné cette réponse, en général, c'est très humain. Alors là, quand je renvoie la balle, c'est terminé. C'est « Non, mais moi, je suis prêt à vous faire des recommandations. Et puis, nous, on a vraiment envie de travailler avec vous. » Ok, très bien. Est-ce que c'est possible de me mettre ça par écrit? Et en fait, là, tu vois si c'était du bluff ou s'il était sérieux sur ses appuis. Parce qu'il y en a plein, en fait, qui veulent une négo juste pour négocier, tu vois. C'est un peu le principe de l'ego de « Ouais, j'ai réussi à négocier, je suis content. » Surtout dans un sujet prix, tu vois. Là, le sujet, c'est est-ce qu'on est vraiment dans une négociation ou on est dans un enjeu où tu considères réellement d'acheter? Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis en train de mettre ma réputation en jeu quand j'accepte de baisser mon prix. Parce que j'ai aucune garantie que tu vas pas aller balancer aux copains à côté « Ouais, t'inquiète, j'ai négocié, tu la titilles un petit peu et tu baisses ton prix. » Donc en fait, quoi, je dois mentir sur mes prix et faire plus 20 en anticipant ça? Non, c'est pas du tout la manière dont j'ai envie de travailler. Donc, ok, tu me mets ça par écrit. Et ce que je veux que tu me mettes par écrit, c'est ce que toi, tu es capable déjà de céder. Et moi, en fait, je vais monter un dossier et puis je vais en discuter avec ma direction financière. Très bien de faire ça quand t'es commercial, parce qu'en plus tu peux te backuper avec ton boss. Quand t'es entrepreneur, tu peux aussi le faire et dire écoutez, moi j'ai besoin de justifier aussi pourquoi certains clients payent moins que d'autres au niveau de mes équipes, même moi toute seule vis-à-vis de mon client, si demain il me pose la question. Donc il y a deux choses que je vais vous demander de valider. Un, c'est un NDA, un contrat de confidentialité. Je ne souhaite pas que le prix sorte. Et en fait ça c'est tout bête, mais quelqu'un qui est prêt à signer ça, c'est déjà que t'as à moitié gagné le deal, donc t'es pas dans la même posture niveau négo. Et donc c'est, je te mets par écrit, qu'est-ce que t'es prêt à m'accorder et est-ce que t'es sûr que tu veux travailler avec moi? Si c'est oui pour toi et que tu me mets ça par écrit, je t'envoie un NDA et là ensuite on discute.
Ok, donc on voit quand même qu'on est sur des méthodes où il y a une certaine assise, quoi. Parce que faire signer ça, il y a beaucoup d'indépendants qui doivent écouter en se disant je ne serais pas forcément capable de rentrer dans ce modèle de négociation.
Non, mais en fait,
par contre, on entend l'énergie et on entend l'assise et la posture et c'est là aussi où la négociation, elle est décisive.
Ça parle de Shannon et de son énergie et de son profil de personnalité dont on pourrait parler toutes les deux si tu veux. Mais effectivement, en fait, ce qu'elle fait à ce moment-là, elle pourrait le faire de plein d'autres manières. Elle le fait de cette manière-là. Mais ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle récupère le cadre dominant. Il y a les cadres qu'on porte chacun, et en fait, deux cadres ne peuvent pas coexister. Et donc, quand ton client arrive et dit « c'est moi qui ai le cadre puissance, c'est moi qui arrive en étant, ou le cadre récompense, c'est moi qui arrive en étant la récompense, ou en étant le plus puissant », il y a plein de manières de mettre en place des cadres puissance qui font que derrière, t'es là, tout petit, et que tu te dis « je peux pas négocier ». Les indépendants qui nous écoutent ont peut-être déjà vécu ça. T'arrives, tu viens voir quelqu'un pour essayer de lui vendre ta solution et tu laisses ta carte d'identité, hein, et on te demande de t'asseoir dans un magnifique fauteuil et ce cadre puissance là, il est là, il t'écrase et t'arrives en égo, bah évidemment t'es pas tout de suite la même chose. Mais là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle retourne le truc en disant « mais en fait, c'est moi la récompense. C'est moi, ma solution a de la valeur et donc, je veux bien baisser le prix, mais il va falloir que ça se soit justifié par quelque chose. » Et donc, en faisant ça, elle re-récupère le cadre dominant.
Après, moi, je pense aux indépendants qui n'ont pas l'assurance de Shannon et qui viennent effectivement tout inquiets. Il y a une façon très simple, en fait, d'affronter le sujet quand tu n'as pas autant de drive que toi. Il faut être très au clair sur ce que coûte ce que tu vends. Je pense que définir ton prix, tu croises quand même trois variables. Hein, vous le savez tous, pardon, mais c'est trivial, mais qu'est-ce que ça coûte en temps, en matière première? Je suis hyper claire sur ce que ça coûte. À quel prix vendent mes concurrents? C'est quand même bien d'avoir fait un peu de comparatif. Et puis trois, quel est le prix psychologique du client? En général, quand tu croises ces trois choses et que tu t'entraînes, tu es à peu près bon sur le prix. Et tu sais jusqu'où tu ne peux pas descendre parce que sinon, tu perds de l'argent. Moi, je me dis, ça coûte tant parce que je fais ma marge et je l'ai calculée. Je sais qu'à partir d'un certain seuil, en dessous, eh ben, je vais perdre de l'argent. Donc, c'est très, très clair, en fait. On sait d'avance jusqu'où on peut descendre.
Tu perds de l'argent, mais tu perds aussi de la légitimité et tu perds...
Oui, après, tu sais que si tu vends à une très belle marque et que, justement, elle a accepté en contrepartie de parler de toi, d'aller sur une conférence ou de te faire un testimonial, au final, tu peux peut-être être gagnant. Mais il faut être très au clair sur ce qu'on coûte, en fait. Dès lors qu'on sait ça... Il y a moins d'inquiétude.
En fait, moi, je suis d'accord, mais il y a un petit point quand même où je mets un peu des guillemets. C'est-à-dire que moi, je peux avoir aussi des personnes qui ont choisi un positionnement qui est potentiellement plus premium et qui n'ont justement pas envie de comparer deux offres qui sont totalement différentes parce qu'il y a une notion d'expertise, il y a une notion de service supplémentaire. Et en fait, ça, ce que je remarque, c'est que les entrepreneurs ont du mal à le quantifier. Et donc, quand on leur demande, OK, comment t'en es arrivé à ce prix-là, ils ont du mal. Et du coup, moi, ce que j'essaye de faire, c'est effectivement de les remettre juste sur la position de l'enjeu. Donc, c'est vraiment, en fait, ne discute pas de ton prix tant qu'au moins, tu n'es pas sûr que vraiment, il a besoin de ta solution. Parce que sinon, ça veut dire qu'en fait, tu as mal géré ta découverte et ça va revenir à la fin. En fait, à la fin, une fois que tu auras baissé ton prix, c'est à ce moment-là où le mec, il va dire « D'accord, bah merci pour l'offre, mais du coup, je vais réfléchir. » Là, tu te sens encore plus bête parce que, un, tu as baissé d'estime. Toi, tu t'es senti mal parce que tu pensais que c'était le seul levier et en fait, tu es passé à côté du truc. Donc, bien évidemment qu'il y a une notion où on va venir l'adapter. Mais moi, j'essaye vraiment de les sortir justement du côté coût. Mais là, sinon, j'en ai qui...
Elle ne doit pas se faire sur le prix, en fait. Si jamais il n'y a que ça qui fait la différence, tu as tout faux, en fait.
Et c'est ce que tu dis, d'ailleurs. Pardon, c'est ce que tu dis, Sandrine, quand tu dis qu'il faut dissocier les objectifs, en fait.
Oui. Alors, je vais rajouter, parce que moi, je fais tout ce qui est dit. Franchement, c'est top de top. Il y a aussi une seconde situation dans laquelle on est, où sont les solos. C'est, vous savez, ils ont des contrats. Puis souvent, un client fait 70-80% du chiffre d'affaires. Et on en parle...
La dépendance économique.
La dépendance économique.
Pas bon,
et c'est pas bon. Ceci dit, il faut être honnête, la règle des 80-20, paraît-on, on le retrouve chez les indés et dans les entreprises en général, les petites structures. Et dans ce cadre-là, là, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi, tiens, vous savez, chaque année, on va renouveler la négo, le contrat. À ce moment-là, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de retours à ce niveau-là. « Oh !» aïe, aïe, ils vont revenir. Et cette année, je vais repasser sur un cadre négo. Et là, je fais, et donc, ils vont négocier à la baisse. Et bon, et comment tu le sais? Ben oui, parce que, voilà, il y a vraiment cette peur, pour revenir aux peurs. Et là, il y a quelque chose qui peut être, entre guillemets, tout simple à faire. C'est, on a la chance d'avoir déjà réalisé du travail. Sauf que le client, il peut l'oublier. Et là, avec plusieurs clients de même, ce que je leur fais faire, c'est, OK, détermine les tâches que tu réalises et mets un taux, hein, une facturation, un prix en face chacune des prestations que tu proposes à l'intérieur des services que tu proposes. Et là, avec une répartition temps. Et là, je vous assure que c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que 9 fois sur 10, quand elle l'expose... Alors, je travaille bien sûr la posture. Hein, ça, moi, on a le modèle, hein. Je ne change pas, hein, je l'apprends. Hein. En même temps, c'est vrai que celle-là, elle est difficile. C'est peut-être la plus délicate et ça, tu l'as et c'est top.
Elle demande d'avoir travaillé. En tout
voilà,
cas.
Elle demande d'avoir un fort travail. Après, quand on l'a un peu moins, parce qu'on est un peu moins sûr, on a le factuel. Et le factuel, c'est ça. Tu le poses, tu regardes ça, valorisé à ça, ça, valorisé à ça.
Tu vois, ce qui est assez révélateur, c'est que quand tu fais ça et que tu découpes et que tu regardes dans le détail, généralement, tu prends un peu une claque parce que tu te rends compte qu'en fait, bah, tu as tendance à te brader puisque tu as fait un peu un prix global. Tu vois.
Et voilà. Et comment tu fais pour valoriser ça? Ben, alors là, je vous parle du vécu. Hein. On a fait la grille, elle va en égo, ben, je vous donne dans le mille. Tout ce qu'elle a fait, ce n'était que de la validation de point par point. Et à la fin, le client, j'en parle dans le livre, lui dit « Mais en fait, je te dois des sous. » C'est un cas, hein, mais je peux en prendre 36 comme ça. Si on revient à du factuel, si on sort de l'émotionnel et qu'au final... Alors là, je vous parle d'un cas de figure dont on a parlé de prospection, hein, c'est un cas, mais celui-là, on en parle moins. Et celui-là, il tient les indés, waouh, il est chaud, quoi. C'est un sujet qui est cuisant.
J'aimerais qu'on aborde aussi un autre axe, c'est l'autre, en fait. Parce que c'est vraiment un rapport à l'autre, la négociation, Anne.
Oui, évidemment.
Est-ce qu'il y a des trucs à comprendre? Est-ce qu'il y a des gestuels? Est-ce qu'il y a des mots qui trahissent? Tu vois, des petites méthodes comme ça.
Alors, il y en a plein. Hein. Nous, chez nous, on mixe entre 6 et 8 grilles de profilage pour arriver à les pondérer entre elles. Donc, ce serait difficile de faire tout ça là. Mais en tout cas, il y a évidemment des choses qui trahissent qui est l'autre, la manière dont ils se positionnent déjà dans l'espace. Hein. On a des gens qui vont plutôt être inquiets sur les dynamiques de contrôle. Hein. Par exemple, on a des gens qui sont ce qu'on appelle plutôt des conquérants, qui vont plutôt... se positionner en prenant beaucoup de place dans l'espace, qui vont tout de suite venir nous dire des choses du type « j'ai pas trop le temps » et aller dire implicitement des choses du type « c'est moi la récompense hein. ». Ceux-là, ils ont très peur d'être contrôlés. Et donc, ceux-là, il va falloir qu'on leur laisse de la liberté. Okay. On va avoir des gens, pour aller sur des choses très, très concrètes, on va avoir des gens qui, au contraire, vont être plutôt fermés, vont avoir des postures de bras fermées, des postures de corps fermées. Hein. Ceux-là, c'est ceux qu'on appelle les vigilants. Et donc, ceux-là, ils ont très peur de se faire avoir. Et donc, cela, dans la posture de négo, par exemple, on va avoir besoin de leur laisser le temps de s'habituer à notre présence. Si j'arrive et que je rentre trop cash et que je cadre trop tout de suite, eux, je vais me faire disqualifier direct. Okay? Et on a ceux, on les retrouve un peu moins chez les clients, mais on en retrouve quand même, qui ont des postures de corps assez, assez rapetissées, hein, qui vont plutôt, au contraire, nous montrer plutôt leur profil gauche, qui vont plutôt nous montrer leur cool, essayer de nous montrer qu'ils ne sont pas un danger. Et eux, en fait, ce qui les omnubile, c'est la relation. On va pouvoir leur faire passer plein de choses, entre guillemets, si la relation est de qualité, qu'elle tient et qu'elle tient dans le temps. On négocie évidemment des facteurs, des prix, mais au-delà de tout ça, on est en train de négocier une relation. Et l'influence, ça se fait au travers de la relation de qualité que j'arrive à mettre en place. Une pression, une technique de pression, une technique rationnelle de pression, ça ne doit se mettre en place que quand on se dit on est OK avec le fait que la relation s'arrête. Sinon, la relation, ça doit être votre point absolu de vigilance. Si j'ai le choix entre donner un argument, négocier un peu durement quelque chose, si je me dis là, la relation, elle ne va pas tenir à ça, alors votre rôle premier, c'est de préserver la relation, de récupérer des points de vie relationnels avant d'aller chercher autre chose, parce que si vous n'avez pas la relation, vous n'avez rien dans une négociation.
Et c'est pour ça que je disais en introduction, gagner humainement aussi.
Mais oui, parce que parfois, on va se dire, et j'imagine que vous l'avez tout expérimenté ici, des fois on se dit, ben là, je sais que je vais renier un peu plus sur certains points, mais je sais que cette relation, elle va continuer dans le temps. Et peut-être que ce client, je vais le retrouver dans un an, dans deux ans. Parfois même, c'est parce qu'on a tenu. Nous, on a un positionnement chez nous, chez Incognita, plutôt premium, justement. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi un élément de rareté dans la manière dont on met son prix en place. C'est que, effectivement, le premium amène tout de suite la rareté. Il y a certains clients qui viennent nous chercher, qui nous disent bah là, en fait, c'est trop cher. On leur dit, bah d'accord, allez trouver quelqu'un qui fait ce qu'on fait. Alors, et puis, ils font un tour de bocal, ils reviennent. Et, mais on fait ça gentiment, on fait ça en préservant la relation. On fait ça en disant, évidemment, que c'est légitime à aller chercher. Et on les retrouve 2 ans, 3 ans après, ils viennent signer chez nous. Et là, ils n'ont aucun problème avec le prix qu'ils signent.
Oui, c'est là où on voit qu'on est vraiment... Enfin, la nécessité de se différencier, d'avoir quelque chose... qu'on retrouve pas partout, avec un positionnement clair. Et c'est l'épisode juste avant qu'on a fait avec Caroline Mignot, qui est disponible, qui est en ligne, et où on parle justement du positionnement. C'est super important. J'avais une question, Anne, par rapport à ces profils quand on est dans la négociation. Aujourd'hui, on négocie beaucoup par mail, on négocie beaucoup en visio. Et donc, du coup, on voit peut-être pas tous ces éléments.
Si, on les voit quand même. Quelqu'un qui va me faire des phrases courtes avec des verbes d'action, par exemple, il va falloir que je lui donne du concret et de l'action dans ce que je lui propose. Quelqu'un qui va me parler avec des verbes plus complexes, avec des phrases plus longues, avec des subordinations dans ces phrases, je vais imaginer que c'est plutôt quelqu'un qui va être en dynamique mentale, on va dire. Et donc là, il va falloir que je lui donne plutôt de la logique. Okay. Et puis, on a des gens qui vont plutôt me parler sous des axes un peu émotionnels, relationnels. Eux, ils vont me mettre des emojis dans les mails. Eux, ils s'assurent que je vais bien. Et puis, avec sincérité, ils s'assurent que je vais bien. Eh bien, eux, je sais que ce qui va compter pour eux, c'est la relation, c'est l'émotion, c'est le projet qu'on va construire ensemble. Et ça, c'est ça que je vais devoir leur amener. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on est en train de négocier. On est en train de négocier la valeur de l'autre qu'on est en train de nourrir et qui vient chercher au travers de notre produit.
Ce que j'entends, c'est vraiment cette notion d'intelligence relationnel quand on entre en négociation et d'ailleurs quand on fait du business, en fait c'est la compréhension de l'autre, c'est lire entre les lignes par mail, en visio, en réel, en fait, et c'est cette capacité, je trouve, qui permet derrière de réussir de vendre et de bien vendre finalement
et de continuer à vendre
et de durer.
C'est vrai en amont aussi, tu sais, dès le début de la relation, tout l'enjeu c'est d'arriver en 30 secondes à comprendre si c'est quelqu'un qui est people-oriented ou qui est orienté chiffres, c'est quelqu'un d'introverti, extraverti. En fait, tu le vois tout de suite. Et c'est là, à force de le faire, hein, on fait bien ce qu'on fait souvent, c'est qu'à un moment donné, tu le vois vite parce qu'au final, on n'achète qu'à des gens qui nous ressemblent. Si je veux te vendre quelque chose, je vais me tenir comme toi, je vais avoir le même visage, je vais avoir le même ton de voix, je vais effectivement utiliser tes mots. Moi, je fais un truc, quand mes prospects parlent, je note tout ce qu'ils disent, les expressions, et je les remets après dans ma proposition.
Et ce qui est génial, c'est qu'ils te disent, mais c'est tellement incroyable.
Mais c'est
exactement
vrai,
ce que je dis, ce mot-là.
Ils ne
se souviennent pas du tout qu'ils te l'ont dit.
Et ça, c'est le mot magique, c'est exactement. Moi, je fais toujours en sorte que mes prospects en phase de négociation répètent un minimum de fois le mot exactement. Et donc, l'idée, c'est d'être dans la reformulation et de faire comprendre à l'autre qu'on a compris ses idées. Donc, c'est forcément rassurant, réconfortant, ça connecte. Et on se dit, ça peut marcher.
Voilà quelqu'un qui me comprend.
Voilà. Et allons-y, collaborons.
Et ça, c'est massif comme information, je pense, à entendre pour les gens qui nous regardent. C'est qu'en fait, la solution, elle n'est pas dans votre tête. Si vous cherchez comment est-ce que vous allez closer ce deal, si vous cherchez comment vous allez influencer cette personne, depuis votre planète à vous, depuis votre référentiel à vous, vous n'êtes pas au bon endroit. La solution, elle se trouve dans le référentiel de l'autre, dans la carte du monde de l'autre.
Shannon ?
Moi, je suis totalement d'accord et il y a un vrai sujet de confiance pour moi qui est important et c'est ce que je dis souvent à mes élèves, c'est faut pas que mettre une casquette de comédien. De toute façon, quand tu es dans la vente, peu importe l'étape du cycle de vente, j'ai beaucoup d'assurance et je leur dis, je veux pas que tu deviennes un clone de moi. Je te forme pas pour que tu deviennes moi.
En même temps, c'est intéressant qu'ils modélisent aussi un petit peu.
Oui, bien sûr. Mais en fait, ce que je leur dis, c'est que je te transmets. Moi, j'ai confiance en toi. Donc, de facto, quand tu es formé par moi, tu finis par avoir un peu plus confiance en toi parce que je t'envoie ce truc-là et je pense que c'est important aussi. Il y a quand même une notion d'humain. Cependant, moi, ce que je leur dis, c'est n'oubliez pas que vous parlez à des humains et donc on crée aussi la confiance en étant le plus honnête possible. Et je pense que pour revenir au sujet de la négo, parfois, je sais que je suis assez sceptique sur la méthode DISC.
C'est quoi la méthode DISC ?
C'est le truc des couleurs, là. Moi, j'ai un peu du mal parce que, je trouve qu'elle est pédagogiquement, elle est incompréhensible. Et ensuite, je trouve que si l'humain se retrouvait dans seulement 4 cases, le monde serait beaucoup plus
simple. Viens chez nous te former.
Il y a combien de cases chez toi ?
Il y a vraiment ce truc. Et je sais que parfois, ils sont en mode, OK, mais là, je ne sais pas trop comment analyser mon client, etc. Moi, je leur dis, en fait, sors de ça, d'accord ? On n'est plus dans les années 90. Pose carte sur table. En fait, la confiance, je pense que c'est le meilleur moyen d'obtenir aussi
l'authenticité.
Je pense que
l'authenticité et la compétence.
Et il y a un moment où il faut dire en fait au client, écoute, là moi je te le dis, je suis pas du tout confortable à te vendre à ce prix-là en fait. Et c'est pas que j'ai pas envie de travailler avec toi, j'ai vraiment envie de travailler avec toi, mais je te le dis, je te vends à ce prix-là, je perds de l'argent. Donc en fait, comment on fait ? Et c'est tout simple, c'est moi je dis toujours, je te renvoie la balle. C'est pas moi qui cherche la solution. Tu veux la solution ? Eh ben trouve-la. Moi je suis ouverte à ce qu'on discute.
En fait, Shannon, elle fait à longueur de journée du transfert de pression.
Ouais.
Transfert de pression.
Elle a l'air de
la pression, c'est de la bière. Regarde,
tu es prêt à renoncer parce que oui, pour ce que tu tu veux acheter, tu veux payer, tu peux pas avoir tout. Donc dis-moi, je peux pas. On va regarder ce que tu peux enlever.
Exactement. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment envie qu'on bosse ensemble. Et là, ça rejoint aussi Anne sur le côté relation. Moi, je pense que c'est très important. Et je dis aussi à mes élèves, je dis, on paye pas ses factures avec du prestige. Donc, à un moment donné, il va falloir arrêter de vouloir juste signer du prestige. Il faut quand même faire de la marge. Ça, c'est le plus important. Par contre, il y a un point qui est important, c'est qu'est-ce que t'es prêt à garder dans la relation. Essaye pas non plus de la faire à l'envers à ton client. C'est pas parce qu'il a les moyens que tu vas lui vendre plus cher. Parce qu'en fait, tous les efforts que tu mets en amont vont t'impacter derrière. Et ce que disait tout à l'heure Sandrine est intéressant, c'est qu'elle disait, quand ils ont 80% de leur chiffre d'affaires fait par un seul client, c'est parce que tu sais pas prospecter, mon coco. Bah ouais. Comme tu n'as pas d'autre option, t'es en panique dans la négo. Non, mais quand t'as plein d'options, que tu sais vendre, que tu sais prospecter, que tu sais aller chercher d'autres clients, t'es moins dépendant. Tu dis, celui-là, je le perds, je vais en chercher d'autres.
Ça, c'est vrai que quand t'es forcément, quand t'as plus d'options, forcément, t'es moins en situation de demandeur. Donc bien sûr. Ça joue beaucoup dans la négociation. Bah, c'est
sûr. Après, il faut être quand même lucide sur la situation économique aujourd'hui. Hein, je ne vous apprends rien. C'est très totalement contraint. Et même des boîtes qui crachent des milliards d'EBITDA, elles sont en train de te dire, bah, l'année dernière, c'était 50 000. Bah, cette année, j'ai plus que 30. Et toi, tu dis, bah, et alors là, on a beau, tu vas travailler l'argumentaire. C'est comme ça et pas autrement.
Pourquoi cet épisode aussi, on le voit avec le podcast des indépendants, c'est parce qu'on veut des épisodes très pratiques, parce que le contexte est hyper tendu.
Ah, mais il faut en avoir conscience.
Donc, les méthodes de négociation et être au clair et avoir des techniques et structurer et ne pas faire les choses qu'au feeling, se remettre en question, prendre de la hauteur par rapport à soi-même, ça permet aussi de faire face à la situation.
C'est une belle leçon d'humilité. Moi, je travaille depuis 25 ans, j'ai jamais eu autant de refus, de silence, de silence radio. Et je me dis, mais purée, moi, je les connais, les gens, et ils connaissent ma réputation. Comment tu fais quand t'arrives, t'es tout neuf, et puis t'es là en train de vouloir tout faire? C'est très compliqué. Donc, il faut se préparer à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de non et de silence.
J'ai un ami qui m'a dit l'autre jour, qui m'a dit, tu sais, pour nous, c'est pire que la période du Covid. Une espèce de Covid un peu qui porte pas son nom, où beaucoup d'entreprises sont en train d'avoir de grosses difficultés et ont du mal à trouver des nouveaux deals. Les négociations, je t'en parle pas, puisque du coup, ça tire les prix vers le bas. Le contexte est particulièrement anxiogène et donc c'est hyper important d'essayer de faire face, quoi.
Ah, mais je le vois, hein. Moi, de toute façon, on m'appelle majoritairement pour ça. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on m'appelle, on me dit, les commerciaux, ils vendent beaucoup moins. Je dis, mais est-ce qu'ils prospectent? Bah non, parce qu'en fait, ils ont jamais eu besoin. Je dis, d'accord. Donc on fait comment maintenant? Parce qu'en fait, c'est quand la mer se retire qu'on voit tous ceux qui nageaient tout nus depuis le début. Hein. C'est sûr que quand le marché y porteur, tout le monde sait vendre. Hein. Moi, je le dis, quand le marché va bien, tu vends une bouteille d'eau dans un dessert. Ah, bah là, je peux te dire que t'es le loup de Wall Street. Tu vends méga bien. Et par contre, vendre une bouteille d'eau dans un supermarché, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Il ne faut pas oublier que dans une relation commerciale, c'est aussi important de se créer des options. Et je pense qu'il ne faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat si on n'est pas capable d'aller chercher ses clients. Parce que la différence entre un salarié et un entrepreneur, c'est qu'il choisit son contexte. Donc, choisis tes clients, en fait. Si c'est pour les subir et prendre que ce qui vient à toi, reste salarié, en fait, et prends ce que la boîte te donne.
Sandrine ?
Il y a aussi une stratégie dont on peut imaginer qu'elle peut avoir des effets très positifs. Ça s'appelle la fidélisation et la diversification. Et ce sont des stratégies dont les indépendants ont très rarement... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie dépensée, hein, au sens argent du terme, et d'énergie physique, au sens santé du terme, à aller prospecter. Et il y a une stratégie qui est, OK, si je construis une offre, aujourd'hui, je peux aussi imaginer de mettre en place de nouvelles stratégies qui sont, je vais prospecter, mais derrière... Je construis aussi des prestations, des services qui vont pouvoir aider mon client.
Et ça, c'est hyper important de comprendre pour eux qu'en fait, ils ne sont pas en train de vendre un produit.
Et c'est ça.
Ils sont en train de vendre le fait de nourrir la valeur de la personne en face de vous. Je vous le fais sous l'angle du manager, mais vous, ça va vous permettre de comprendre assez rapidement. Quand on vient demander une augmentation à son manager, en fait, on est tous sauf en train de parler d'argent. Et si le manager commence à se dire, à prendre l'argent et la négociation du prix, un petit peu comme un petit chat qui suivrait un laser, comme ça, qui se laisserait complètement hypnotiser par le truc, alors on est fichu. Parce que peut-être que le manager, effectivement, il n'a pas, lui, le budget pour donner cette augmentation. Mais si je me dis, c'est une augmentation qu'il vient de me demander, c'est d'argent dont on est en train de parler, je réponds à l'argent, alors c'est foutu. Je suis en train de faire une négociation de marchand de tapis, hein, quelque part. Alors que si je lève le nez, que je regarde la personne en face de moi et que je me dis « Mais c'est quoi que tu viens me demander ?» Parce que l'argent est le moyen de quoi pour toi ? Si l'argent, c'est le moyen, je ne sais pas, de la reconnaissance, peut-être pour toi, peut-être c'est le moyen d'une réparation, du temps que j'ai donné. On a eu beaucoup ça pendant le Covid, par exemple. Hein. C'est peut-être le moyen de ma sécurité. C'est peut-être le moyen de ma croissance pour ma famille. Peut-être que je n'ai pas l'argent pour te donner ça. Mais peut-être, par contre, que pour nourrir la reconnaissance, par exemple, que tu viens me demander, j'ai plein d'autres choses dans mon panier. Et c'est ça ça la négociation finalement. Ouais. C'est se dire en fait, c'est quoi vraiment que tu viens chercher? Ouais. Ben, comment est-ce qu'on trouve une solution qui ne soit pas forcément ce que toi tu m'avais apporté?
Ouais, donc de compléter finalement et du coup de sortir de la, du prix pur.
Voilà, sortir du moment même, tu vois, et d'avoir une stratégie où tu sors la tête de l'eau, quoi. Tu vas chercher autre chose derrière. Et ça, c'est une stratégie qui demande de se poser, qui demande du recul, qui demande peut-être un peu d'expérience. Et quoique, parce qu'aujourd'hui, on peut être accompagné par des personnes qui vont te donner cette hauteur-là.
Et c'est là qu'on voit que la négociation, c'est un sujet à 360. Il nous reste une minute pour finir cet épisode du podcast des Indépendants. Est-ce que vous avez un dernier conseil très concret à donner à ceux qui nous écoutent quand on parle négociation, Shannon?
La différence entre le besoin et l'enjeu. En fait, il y a le besoin et il y a l'enjeu. D'accord ? Le besoin, c'est j'ai besoin de ta solution pour arriver à une situation souhaitée. Et l'enjeu, c'est la situation. Et il y a un exemple qu'on m'avait donné une fois et que j'avais trouvé très efficace, c'est la métaphore du parapluie. Il pleut, tu rentres dans une boutique, tu dis j'ai besoin d'un parapluie. Et là, le vendeur, il dit mais en fait, pourquoi vous avez besoin d'un parapluie ? Bah parce qu'en fait, là, c'est simple, j'ai un rendez-vous ultra important. Si je suis en retard, c'est fini pour ma vie. Il faut absolument que je sois à l'heure et je ne peux pas arriver trempé. Et là, le vendeur, il lui dit, mais en fait, vous n'avez pas besoin d'un parapluie, vous avez besoin d'un taxi. Et là, j'en appelle un tout de suite, et un, vous allez arriver à l'heure, et de deux, vous n'allez pas être mouillé. Donc, je ne lui ai pas vendu un parapluie, je lui ai vendu un taxi, parce qu'en réalité, son enjeu, c'était d'arriver à l'heure et sec à son rendez-vous. Le besoin n'était pas forcément le parapluie, c'est ce que lui a matérialisé. Donc, je pense qu'il y a deux choses dans une négo, c'est ce que le prospect matérialise, et à quel point est-ce que tu vas creuser pour essayer de comprendre si c'est le vrai enjeu, et que ce n'est pas le besoin, c'est vraiment un enjeu. Et lui donner du coup une solution adaptée. Et ça en revient à ce que disait Anne. Bon. C'était, en fait, j'essaye de comprendre, au-delà de juste le prix, qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre qui peut répondre. Donc, disons que le prix, c'est un parapluie.
On creuse.
Et bien, on trouve autre chose et on lui dit, en fait,
on
n'a pas besoin d'un parapluie.
On lève le nez et on regarde l'autre plutôt que ce qui nous amène.
Sandrine, un dernier mot.
On ne négocie pas sa valeur, on négocie un service, un besoin, une prestation, mais pas sa valeur personnelle. Si on rentre dans le jeu de sa valeur personnelle, on est cuit.
Parce que du coup, ça devient trop émotif.
Tu rentres dans l'émotionnel, tu es touché, et à partir du moment où tu es touché, tu es en réaction. Et ces réactions sont souvent de la défensive, de la peur, de la position basse. Tu sors de là, tu négocies de la valeur de prestation, bien sûr, en ayant bien déterminé de quoi mon client en face a vraiment besoin, au-delà de ce qu'il vient de te demander.
Un dernier mot, Catherine.
Moi, je vais être hyper pragmatique, en fait. Hein. Si tu veux être meilleur en égo, mon ami, il faut que tu t'entraînes. Il faut que plus tu vas t'entraîner face à des gens qui t'impressionnent un peu, c'est ce qu'on fait chez Envie, on t'entraîne toutes les semaines. Et à un moment donné, tu vas être meilleur. Tu vas avoir l'habitude, les bons réflexes vont venir, tout ce qu'on a partagé ici, ça va remonter. Donc, entraîne-toi. Ce n'est pas de la théorie,
c'est
la
négo
ou la vente, c'est de la pratique.
Et Anne,
ça, c'est très vrai. Si tu n'as pas la relation, tu n'as rien. Je pense que s'il y a une chose que j'aimerais que retiennent les gens, c'est ça. Ton job en tant qu'entrepreneur, que solopreneur, de toute personne qui va avoir besoin d'avoir la main sur la relation et sur l'autre et de commencer à avoir la relation de manière stratégique et tactique, ton rôle, c'est d'aller dans l'univers de l'autre pour aller y faire un tour et voir quel levier est-ce que tu peux actionner. Mais ça ne se décide pas à l'intérieur de toi, ça se décide chez l'autre. Et regarder l'autre et apprendre à aller chez lui, effectivement, ça s'apprend et ça s'entraîne.
Bienvenue chez moi.
Merci à toutes les quatre d'être venues pour parler négociation. J'espère que vous qui avez écouté cet épisode, vous l'avez trouvé enrichissant et que vous avez pris conscience que c'était aussi une question de rapport à soi-même, parce qu'en fait, on a parlé beaucoup de ça au final, parce que c'est un travail sur soi-même et aussi une forme de pragmatisme par rapport à ses prix. Bref, une négociation, ça ne s'improvise pas. On se retrouve un jeudi sur deux avec un nouvel épisode sur BFM Business. À bientôt.
C'était le podcast des Indépendants sur BFM Business. Retrouvez Ludovic Badaud et ses invités un mercredi sur deux. Pensez à noter l'épisode si vous avez aimé l'écouter.